Je me souviens de la lumière du soleil qui perçait à travers les rideaux anthracite le lendemain matin. Simone dormait, nue, à mes côtés. Sa bouche était à demi ouverte, ses cheveux ébouriffés, ses épaules et ses seins couverts de petites taches de rousseur claire. Elle eut soudain la chair de poule sur le bras. Je remontai la couverture sur elle. Benjamin tout sauta. Je n'avais pas remarqué qu'il était là. Parfois, quand il faisait des cauchemars, il se glissait dans la chambre, la nuit, et se couchait sur un matelas par terre. Généralement, je m'allongeais dans une position inconfortable et lui tenais la main jusqu'à ce qu'il se rendorme. Je vis qu'il était 6 heures, me retournai sur le côté, fermai les yeux et pensai que ce serait bien si je pouvais dormir encore un peu.
« Papa ?»
chuchota soudain Benjamin. « Rendors-toi, » dis-je doucement. Il se redressa sur son matelas, me regarda et dit de sa voix claire et haut perchée
« Papa, tu étais allongé sur maman cette nuit. »
« Ah bon ? » fis-je, et je sentis Simone qui se réveillait.
« Oui, tu étais sous la couette et tu te balançais sur elle, »
poursuivit-il. « C'est fou ça, » tentai-je de dire d'un ton léger. Simone pouffa en se cachant la tête sous l'oreiller. « Je faisais peut-être un rêve, » dis-je d'un air évasif. Simone s'étranglait maintenant de rire sous l'oreiller.
« Tu rêvais que tu faisais de la balançoire ?»«
C'est-à-dire ?» Simone leva la tête. Elle affichait un grand sourire.
« Mais réponds enfin, » dit-elle d'une voix maîtrisée. « Tu rêvais que tu faisais de la balançoire ?»« Papa ?»«
Certainement, oui. »« Mais, » dit Simone en riant, « pourquoi donc étais-tu allongé sur moi quand tu... »« Il est l'heure d'aller petit déjeuner, » l'interrompis-je. Je vis à quel point Benjamin grimaçait en se levant. C'était le matin le pire moment de la journée. Les articulations étaient restées immobiles des heures et des hémorragies spontanées pouvaient survenir. « Comment te sens-tu ? » Benjamin s'appuya contre le mur pour rester debout. « Attends, petit bonhomme, je vais te masser. » Benjamin soupira en se rallongeant sur le lit et me laissa plier et étirer délicatement ses articulations.
« Je ne veux pas la piqûre, »
dit-il d'une voix triste. « Pas aujourd'hui, Benjamin. Après-demain. »«
Je veux pas, papa. » »«
Pense à l'As qui est diabétique. Il doit avoir des piqûres tous les jours. »«
David n'a pas besoin d'avoir des piqûres, lui. » »«
Mais il a peut-être d'autres soucis. » Il y eut un silence.
« Son papa est mort, » chuchota Benjamin.
« Tu vois, » dis-je en finissant de masser ses bras et ses mains.
« Merci, papa. »
dit Benjamin en se levant prudemment. « C'est bien, mon garçon. » J'enlaçai son corps fluet, mais réprimai comme d'habitude l'envie de le serrer plus fort contre moi.
« Je peux regarder les Pokémon ? » demanda-t-il.
« Demande à maman, » répondis-je. Et j'entendis Simone crier « Lâche !» depuis la cuisine. Après le petit déjeuner, je m'installai dans le bureau à la table de travail de Simone, pris le téléphone, et composer le numéro de Lass Olson. Jenny Lagerkranz, sa secrétaire, décrocha. Elle travaillait pour lui depuis plus de 20 ans. Je bavardai un peu avec elle, lui racontai que j'avais ma première matinée de repos depuis 3 semaines, et demandai ensuite à échanger quelques mots avec Lass.
« Un instant, »
dit-elle. S'il n'était pas déjà trop tard, je pensais lui demander de ne pas parler de moi à Frank Paulson. Il y eut un clic. Puis, après quelques secondes, la voix de la secrétaire.
« Lars ne peut pas prendre d'appel pour l'instant. »«
Dis-lui que c'est moi. »«
Je l'ai fait, »
dit-elle, inflexible. Je raccrochai sans un mot, fermai les yeux et compris que quelque chose ne tournait pas rond, que j'avais peut-être été dupé, qu'Eva Blow était sans doute plus difficile ou dangereuse que ce que n'avait laissé entendre Lass Olson. « Je peux gérer ça, » pensai-je. Puis je me dis que le groupe d'hypnose risquait de perdre son équilibre. J'avais composé un petit groupe d'hommes et de femmes dont le passé, les problèmes et les dossiers médicaux étaient complètement différents. Je ne m'étais pas préoccupé de savoir si ces personnes étaient facilement hypnotisables. Ce que je recherchais, c'était la communication, le contact du groupe, le développement de chacun dans la relation à soi-même et à autrui.
Nombre d'entre eux traînaient une culpabilité qui les empêchait de nouer des contacts, de fonctionner socialement. Ils s'en voulaient d'avoir été violés ou maltraités. Ils avaient perdu le contrôle de leur propre vie ou leur confiance dans le monde. Lors de la dernière séance, le groupe avait encore progressé d'un niveau. Nous avions conversé comme nous le faisions d'habitude avant que je fasse une tentative pour plonger Marek Semyovic dans une hypnose profonde. Ça n'avait jamais été aussi facile avec lui jusqu'alors. Il n'était jamais concentré et toujours sur la défensive. Je sentais que je n'avais pas trouvé le bon accès, que nous n'avions même pas trouvé un endroit par où commencer. Une maison? Un terrain de football? Une région forestière? Proposai-je. Je ne sais pas, répondit Marek comme à son habitude. Mais il faudra bien commencer quelque part, dis-je. Mais où? Si tu t'imaginais un endroit où tu serais obligé de revenir pour comprendre celui que tu es devenu. La campagne de Zeneca, dit Marek d'une voix neutre. Zeniško Dobojski. D'accord, bien, répondis-je en prenant des notes. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé là-bas? Tout s'est passé là-bas, dans une grosse baraque en bois foncé, presque comme un château. Une propriété terrienne, avec un toit pentu, des tourelles et des terrasses. Le groupe d'hypnose était maintenant attentif. Tous écoutaient. Tous comprenaient que Marek avait ouvert d'un coup plusieurs portes intérieures. J'étais assis dans un fauteuil, je crois, hésita Marek. Ou sur des coussins. Quoi qu'il en soit, je fumais des Marlboro pendant que... Il y a dû y avoir au moins une centaine de filles et de femmes de ma ville natale qui sont passées devant moi. Passées? En plusieurs semaines. Elles entraient par la porte principale et étaient conduites en haut du grand escalier jusqu'aux chambres. « C'est un bordel ?» demanda Yussi avec son fort accent du Norland. « Je ne sais pas ce qui s'y faisait. Je ne sais presque rien, » répondit Marek à mi-voix. « Tu n'as jamais vu les chambres à l'étage ?» demandai-je. Il se frotta le visage, puis inspira profondément. « J'ai un souvenir, » commença-t-il. « J'entre dans une petite chambre et je vois une des profs que j'avais au collège. Elle est attachée sur un lit, nue, des bleus sur les hanches et les cuisses. Qu'est-ce qui se passe? Je suis juste sur le pas de la porte avec une espèce de bâton dans la main et... Je ne m'en souviens plus. Essaie, dis-je calmement. Ça a disparu. Tu es sûr? Je n'en peux plus. D'accord. Tu n'es pas obligé. On peut s'arrêter là. Attends, dit-il. Puis il resta silencieux un long moment. Il soupira, se frotta le visage et se leva. Marek? Je ne me souviens de rien, dit-il d'une voix stridente. Je pris quelques notes et sentis que Marek m'observait. Je ne me souviens pas, mais tout s'est passé dans cette foutue baraque, dit-il. Je le regardai et hochai la tête. Tout ce qui fait partie de moi, tout se trouve dans cette maison en bois. La maison hantée, prononça Lydia de sa place à côté de lui. « Exactement, c'était une maison hantée. » Puis il se mit à rire, le visage défait.